Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Les chefs d'État du G5 Sahel étaient à Pau ce soir à l'invitation d'Emmanuel Macron. Au moment du dernier sommet de l'OTAN début décembre, le président français avait expliqué qu'il avait besoin de voir ses homologues mauritaniens, maliens, nigériens, burkinabés et tchadiens pour clarifier le cadre d'intervention de la France dans la région face à la menace djihadiste. Les terroristes ont infligé ces derniers mois des coups très douloureux aux armées des pays de la région et donnent l'impression d'une menace en expansion. Il y a aussi des succès de l'opération Barkhane avec les armées du G5 Sahel. La guerre contre les djihadistes au Sahel peut-elle être gagnée? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous ce soir dans notre studio. Christophe Angéli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la stratégie de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, la FERDI. Et en direct par téléphone à Bamako, Baba Dakono, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut d'études de sécurité, l'ISS, au Mali. D'abord, la même question à tous les deux. Christophe Angéli, peut-être d'abord. Comment évaluez-vous la situation dans la région du Sahel actuellement?
Écoutez, je pense que, d'une certaine façon, la question que vous posez, si je veux répondre à cette question, et ça vous donne un petit peu la notion que je voudrais véhiculer, hein, c'est oui, la guerre peut être gagnée. Alors, comment j'évalue la situation? Compliquée. Je pense que dans le contexte militaire, le contexte djihadiste ou terroriste d'ailleurs, quelle que soit la façon dont on l'appelle, est un contexte qui a bien compris à quel endroit il pouvait frapper pour faire mal. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une volonté d'affecter les volontés de partenariat et les volontés de travailler ensemble à la fois des Sahéliens et des pays du Nord. Mais de mon point de vue, ça ne remet absolument pas en cause la recherche de solutions, qui sont des solutions qui malheureusement prennent du temps.
Baba Dakono, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que la guerre, est-ce que ce combat, est-ce qu'il est possible de le gagner?
Oui, c'est bien possible de le gagner, mais comme il le disait tout à l'heure, c'est un combat qui va prendre du temps parce que nous sommes face à une menace qui a un ancrage local, donc il y a une menace qui a eu le temps de s'endogéniser, donc il rend beaucoup plus difficile aujourd'hui la lutte contre cette menace-là. Mais oui, c'est possible de gagner quand on va aller vers des solutions multidimensionnelles et qui intègrent toutes les dimensions du problème aujourd'hui.
Le phénomène djihadiste, il est en expansion ou est-ce que justement il est devenu totalement endogène, comme vous le disiez, Baba Dakono, ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train de grossir, de s'étendre, Christophe Angéli, vous diriez quoi?
Moi, je dirais que...
Combien il y a de djihadistes dans la région? C'est difficile à dire.
C'est difficile à dire, d'autant qu'on présente ce groupe comme un groupe homogène. En réalité, il y a là-dedans des extrémistes religieux, ça c'est certain, mais il y a également des droits communs. Hein. Il y a tous les trafiquants d'armes ont parfaitement trouvé une forme de légitimisation de leur présence par ce biais. Et puis, on a également des jeunes, beaucoup de jeunes, hein, qui ont rejoint spontanément ou de façon forcée, parce que n'oublions pas qu'il y a également de l'enrôlement forcé dans ces groupes-là, qui sont séduits par des perspectives d'avenir, des perspectives d'avenir et emplois qui n'existent pas dans ces zones.
Baba Dakono, vous qui êtes au plus près que nous en tout cas du terrain, est-ce que vous avez une idée du nombre de djihadistes dans la région du Sahel?
Alors, c'est difficile à dire aujourd'hui le nombre exact du nombre de personnes aujourd'hui qui sont actives dans ces groupes qualifiés de terroristes. Mais ce qu'on sait, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une menace endogène parce que le discours qui est promu aujourd'hui par les leaders de ces groupes-là semble avoir un écho favorable au sein de certaines communautés, ce qui rend l'ancrage local de ces groupes-là. Et quand on voit un peu les logiques qui expliquent l'engagement de ces personnes-là dans ces groupes, ce n'est pas que des logiques économiques, comme on était tenté de le penser il y a quelques années. Il y a plusieurs facteurs qui concourent à l'engagement de ces personnes-là dans ces groupes, des facteurs multiples, mais des facteurs qui se rejoignent aussi. Mais principalement, on retrouve des questions de protection. Et là, c'est très intéressant parce que il y a la protection de sa personne, de sa famille, de son clan, mais il y a aussi la protection de son activité économique qui explique aujourd'hui l'engagement de ces personnes-là dans ces groupes je partage cette analyse sur le fait que c'est une menace aujourd'hui qui s'étend. Et d'ailleurs, ce n'est même plus une menace que sahélienne aujourd'hui. C'est une menace ouest-africaine qui va au-delà de la région, de la seule région du Sahel aujourd'hui, comme l'attestent les dernières attaques ou tentatives qu'on a observées à la frontière entre le Burkina et les pays de la côte, notamment le Bénin, le Ghana et le Togo.
Oui, ça se déplace vers le sud, Christophe Angéli, oui. C'est ça qui est inquiétant.
Oui, ça se déplace vers le sud et puis il y a une forme de crainte qui est en train de se répandre, j'aurais presque tendance à dire, au-delà même de la région. Hein, je rencontrais des gens du Mozambique récemment qui disent le risque avec les chebabs et l'alimentation de ce conflit sahélien, c'est qu'on voit arriver chez nous aussi, au Mozambique. Au Mozambique,
c'est très au sud.
On voit arriver des tentatives de déstabilisation.
Pour savoir si une guerre est gagnée, il faut d'abord savoir quels sont les buts de guerre, quels sont les objectifs de l'opération Barkhane, officiellement, hein, tels qu'ils sont définis, Baba Dakono, et est-ce qu'ils sont atteints pour l'instant ?
C'est difficile à dire parce que ça a été rappelé tout à l'heure que aujourd'hui Barkhane est déployé dans le cadre de la lutte contre les groupes qualifiés de terrorisme. On sait que le Sahel, c'est pas la seule menace. Il y a plusieurs phénomènes qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui expliquent l'insécurité. On a parlé tout à l'heure des questions de trafic, donc les questions qui sont liées à la criminalité organisée transnationale, mais il y a également les conflits locaux et on sait que ces menaces-là s'imbriquent. Aujourd'hui, c'est difficile d'évaluer parce que quand on prend par exemple le sentiment des communautés vis-à-vis de l'insécurité. Elles sont aujourd'hui victimes des braquages, des vols, mais elles sont également victimes de ce trafic d'armes qui est croissant dans la région. Donc ça va être difficile qu'on puisse dire que Barkhane a atteint ses objectifs et que Barkhane est parvenu à assurer la sécurité dans la mesure où l'insécurité repose sur les phénomènes qui dépassent le cadre formel aujourd'hui pour lequel Barkhane est engagé.
Les groupes armés djihadistes ou simplement de droit commun jouent parfaitement de ces conflits locaux, le conflit pastoral par exemple, ils arrivent très bien à s'imbriquer là-dedans, Baba Dakono.
Oui, et à ce niveau, il est important d'avoir une compréhension large de l'implication de ces groupes-là, que ce soit les groupes qualifiés de terroristes ou même que ce soit les différents réseaux criminels. Il y a une certaine forme d'implication entre ces différents phénomènes-là. Mais ce qu'il faut savoir particulièrement des groupes qualifiés de terroristes, c'est que ils instrumentalisent souvent ces conflits-là, comme on le voit, ils attisent la violence. On l'a observé dans le centre du Mali, dans le Sénou, à la frontière entre le Niger et le Burkina. Mais dans d'autres cas, on a observé des groupes qualifiés de terroristes qui sont plutôt des acteurs qui ont contribué à faire baisser la tension, ça peut paraître bizarre, mais qui se sont posés souvent en médiateurs dans le cadre des dynamiques conflictuelles dans la localité où ces groupes-là sont présents. Et cela rappelle à tous les acteurs qu'il est important de faire mener cette lutte-là contre les groupes qualifiés de terrorisme et de faire attention à cet effet domino-là. Parce que si on ne prend pas de précautions, si on ne fait pas attention aux conséquences, en agissant ou en luttant contre ces groupes, leur départ pourrait provoquer la résurgence de conflits dans les localités où ces groupes-là sont justement parvenus à faire baisser la tension.
Ça veut dire, Christophe Angéli, qu'il faut faire preuve de discernement entre les différents groupes, c'est ça que...
Alors, peut-être que je ferai un commentaire un peu en creux. Vous dites Barkhane. Je crois que l'enjeu principal qu'on a aujourd'hui, c'est un enjeu de force de sécurité. Et l'enjeu de force de sécurité, il y a deux grands volets, c'est les forces de sécurité nationales et l'aide internationale qu'elles reçoivent. Et puis, il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est la police, la gendarmerie et la justice. Je crois que ce dont vous parlez là, ça manque d'une certaine façon de cette autre partie qui n'est pas la partie militaire des forces de sécurité, qui doit impérativement être traitée. C'est la demande de justice qu'on voyait être demandée dans le cadre des accords d'Alger, hein, et dont on sait très bien, par exemple, au Mali, qu'elle a eu du mal à être mise en œuvre, au moins par les accords d'Alger. Mais enfin, on remarque également que la société civile semble se saisir de ce sujet. Baba Dakono au Mali voit bien ce qui se passe aujourd'hui dans la lutte anti-corruption. Hein. Le patronat malien Mamadou Koulibaly qui a commencé à dénoncer des procureurs corrompus, une création d'une cellule de lutte contre la corruption et le chômage. Tout ça, ça participe d'une certaine façon d'une volonté de normalisation avec les moyens disponibles. Et les moyens disponibles, c'est, je ne pense pas qu'on puisse les résumer à la force internationale Barkhane.
Alors, on va y revenir, bien sûr, mais je vais quand même revenir sur Barkhane, qui met en avant une intensification des opérations depuis notamment la mort des 13 soldats français dans un accident d'hélicoptère au cours d'une opération anti-djihadiste en novembre. Il y a réellement des succès, Baba Dakono, ou est-ce que c'est de l'affichage pour montrer que les Français et les Burkinabés, enfin les armées locales, notamment, arrivent à travailler ensemble?
Ce qui est important à appréhender, c'est que c'est vrai que depuis quelques semaines, on parle de nombre important de personnes qualifiées de terroristes neutralisées. Et ça, c'est pas nouveau. On a toujours présenté le bilan en termes de nombre de terroristes neutralisés. Mais ce qu'on observe, c'est que en dépit de ces actions de neutralisation de ces personnes qualifiées de terroristes, c'est une menace qui se développe. C'est une menace qui est toujours présente. Donc, ça veut dire que et finalement, l'action n'est pas perçue de la même façon, d'un point de vue militaire, par les acteurs sécuritaires que par les populations qui sont censées être les bénéficiaires. Donc il est important aujourd'hui de réévaluer comment aujourd'hui on mesure l'impact de cette lutte armée contre ce phénomène-là, non pas à l'aune du nombre de terroristes neutralisés, mais beaucoup plus en termes de nombre de personnes secourues, nombre de villages sécurisés, parce que c'est ce qui permettra véritablement aux communautés, aux populations de sentir des effets positifs de cette lutte armée-là.
On peut s'empêcher de penser que ce sont les djihadistes qui infligent les plus lourdes pertes dans ce conflit. Les morts se comptent en dizaines dans les rangs des armées sahéliennes, 89 encore la semaine dernière au Niger. C'est une stratégie de faire aussi mal aux armées locales. Est-ce que l'objectif, il est opérationnel, bien sûr, mais est-ce qu'il n'est pas aussi psychologique sur les populations, Christophe Angély?
Si, il l'est, et il est d'autant plus que...
Vous montrez, regardez, ils sont pas capables de se protéger eux-mêmes, donc ils ne vous protégeront pas.
Mais vous pouvez noter d'ailleurs que les armées les mieux préparées sont pas attaquées. On n'a pas ces débats-là avec les Tchadiens, on n'a pas ces débats-là avec les Mauritaniens. Et on a ce débat-là avec le Niger, en reconnaissant que le Niger fait beaucoup de mal également aux terroristes. C'est-à-dire qu'ils perdent beaucoup de soldats, mais ils se défendent. La question, d'ailleurs, qui est une vraie question aujourd'hui, c'est la qualité des armées maliennes et burkinabées qui, probablement, pose aujourd'hui la question du focus que vont faire les terroristes et du ciblage que vont faire les terroristes sur ces deux armées qui sont probablement aujourd'hui les armées les moins équipées, les moins motivées.
Oui, Baba Dakono, vous diriez la même chose, que les djihadistes appuient là où ça fait particulièrement mal?
Alors, c'est vrai que les djihadistes appuient, ou les personnes qualifiées de djihadistes ont cette approche-là d'appuyer là où ça fait mal. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi une question organisationnelle, il y a une question structurelle, mais il y a aussi une question perspective. Quand on voit dernièrement les camps qui ont été, les positions des forces armées, que ce soit du Mali ou du Niger, qui ont été la cible de ces attaques-là, on comprend, quand on voit la géographie de ces localités-là, ce sont des positions isolées. Ce sont également des positions qui représentent des enjeux stratégiques avec, au cours des derniers mois, les attaques qu'on a vues à Indeliman, Tambacor et encore à Inates au Niger. On se rend compte que finalement, c'est cet espace-là, qui est également un espace de trafic, qui sont des couloirs de passage, deviennent de moins en moins militarisés. Au Mali, on a vu, après les attaques d'Indeliman et de Tambacor, que les forces armées se sont repliées sur Menaka et sur Ansongo. Au Niger, il y a également un début de repli de ces postes avancés-là. Donc, qui est une perspective, une meilleure perspective pour ces groupes-là. Donc il y a, oui, la faiblesse structurelle de ces armées-là, mais il y a aussi la question des enjeux pour ces groupes-là qu'il ne faut pas occulter.
Et quelle tactique est employée pour arriver à de tels résultats, des bilans aussi effroyables? Est-ce qu'il y a une coordination actuellement opérationnelle entre groupes djihadistes ou dits djihadistes, comme disait Baba Dakono, Christophe Angély?
J'avoue franchement que j'ai pas de réponse à cette question, et Baba en a probablement davantage, mais mon sentiment, c'est que ce que prouve tout ça, c'est que la réponse à la problématique sahélienne aujourd'hui ne peut pas être qu'une réponse sécuritaire, parce que si ça n'est qu'une réponse sécuritaire, le bilan qu'on en tirerait aujourd'hui, il est forcément négatif, les choses se dégradent. Bon. Donc la réponse qu'il faut donner, et si on veut gagner cette guerre, c'est une réponse globale dans laquelle il y a beaucoup de dimensions. Et la première dimension, c'est probablement le leadership politique. On a absolument besoin d'un leadership politique affirmé. Maintenant, il y a une dimension sécuritaire, inévitablement. Elle est très lourde aujourd'hui, mais il y a une dimension de développement, il y a une dimension sociale et il y a peut-être même une dimension environnementale. Il ne faut pas perdre de vue cette multidimensionnalité de la solution.
Baba Dakono, la solution est peut-être en partie militaire. Où est-ce qu'elle est peut-être et même surtout dans le maillage territorial des États sahéliens? Est-ce que les États locaux doivent réinvestir des zones qu'ils ont abandonnées, tout simplement?
Absolument, absolument. Les solutions ou les options militaires sont parfois nécessaires et même parfois indispensables, mais ça reste des solutions à court terme, comme je le disais plus tôt dans mon propos. En dépit ou malgré le fait qu'un nombre important de personnes qualifiées de terroristes est présenté à avoir été neutralisé, c'est quand même une menace qui se développe et c'est beaucoup de populations, beaucoup de communautés qui adhèrent au discours qui est promu par ces groupes qualifiés de terroristes-là. Donc tout ça doit obliger les États et leurs partenaires à s'interroger sur les questions liées à la gouvernance, les questions liées à l'accès aux services sociaux de base, mais et surtout la question épineuse de la justice qui demeure au cœur des griefs et des frustrations des populations qui en fin de compte sont exploitées par ces groupes-là. Donc ces solutions militaires doivent être pensées à court terme et parallèlement prendre en charge c'est les questions d'ordre politique, les questions liées à la gouvernance, celles liées à la justice, mais également aux services sociaux de base. Donc oui, je rejoins cette analyse sur le fait que la réponse, elle doit être multidimensionnelle parce que la menace, elle, se construit sur des dynamiques multiformes.
Ça veut dire qu'il faut plus de moyens pour occuper le terrain, plus de moyens financiers notamment, parce qu'on le rappelle, le G5 Sahel, ce n'est pas qu'une dimension militaire, il y a une dimension de développement également, Christophe Angeli. Où est-ce qu'on en est du point de vue des engagements financiers pour le G5 Sahel? Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là?
Je pense qu'on a insisté depuis... D'abord, la nécessité d'un leadership politique est réelle. Et quand on regarde bien ce qui s'est passé, on a eu en 2017 la création de l'Alliance Sahel. On a eu dans le même espace de temps, on a eu la création du secrétariat permanent du G5 Sahel. On a donc deux gros partenaires régionaux qui se sont créés et qui, depuis 2 ans, ont appris à se parler, à travailler ensemble. Et je note que le G5 Sahel, aujourd'hui, arrive à faire passer au bailleurs, des besoins de financement pour des projets d'investissement prioritaires qu'ils choisissent, et pour, dans les zones sensibles, des projets de développement d'urgence. Donc, on voit les choses évoluer, le paradigme change, c'est-à-dire je pense que les bailleurs écoutent davantage les Sahéliens, et donc peut-être qu'ils dépenseront mieux demain qu'ils n'ont dépensé dans le passé, et moi j'appelle ça à continuer, mais ça dépend lourdement du soutien politique, et ça dépend lourdement de ce qu'a fait, entre autres, Emmanuel Macron aujourd'hui, s'assurer que régulièrement cette volonté de travailler ensemble soit réaffirmée et que les agendas politiques soient partagés.
Oui, Baba Dakono, cette dimension à la fois financière et d'alliance politique, de but clairement défini, ça c'est important.
Elle est déterminante pour pouvoir avoir des résultats positifs et là encore sur le moyen ou le long terme. Vous avez rappelé le programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel, c'est important, mais ce qui se passe ou ce qui s'est passé dernièrement rappelle que même si d'un point de vue théorique tous les acteurs sont d'accord sur le fait que on doit faire en même temps attention aux aspects sécuritaires mais également aux aspects de développement. Dans la pratique, on focalise toujours l'attention sur ces aspects sécuritaires-là au détriment des autres aspects et cette marginalisation des questions, notamment de développement des questions politiques, conduit aux résultats qu'on observe aujourd'hui. Donc, peut-être que tout ce qui se passe fera finalement prendre cette conscience que effectivement le changement de paradigme est indispensable aujourd'hui pour avoir des résultats positifs.
Très rapidement, Christophe Angeli, l'annonce de l'envoi de 220 soldats français supplémentaires dans la région, c'est une bonne chose.
Je pense que c'est une bonne chose parce que les armées maliennes, les armées burkinabées, les armées nigériennes ont besoin qu'on les aide, ont besoin de renseignements. Donc c'est une bonne chose, mais on ne gagnera pas la guerre avec ça.
Merci Christophe Angeli, merci Baba Dakono d'avoir été avec nous en direct de Bamako. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Charles Barré à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, Nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.
7 milliards de voisins.